Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, avec le numéro 3 de Pas mon genre, le podcast de la Cité du genre, Pôle Société Civile. Moi, je suis Sandy Bakshi, responsable du Pôle Société Civile. Et aujourd'hui, on va parler voyage. Je suis en compagnie de Ladan Niaesh, qui est professeure en études anglophones. Et plus spécifiquement, elle est spécialiste de la littérature et de l'histoire des 16e et de 17e siècles. En somme, Shakespeare et ses contemporains. Dans ce cadre, elle s'intéresse plus particulièrement à la littérature de voyage et surtout aux voyages extra-européens. Bonjour Ladan.
Bonjour Sandeep. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis très reconnaissante à la Cité du genre de me donner cette opportunité de revenir sur une activité qu'on a organisée récemment avec mes étudiants, dans laquelle on a réussi, même si c'était un cours de littérature, à parler pas seulement de Shakespeare, mais de Shakespeare et de pas mal d'autres choses.
Merci Ladan, merci d'être venue. Moi je suis ravie parce que j'ai assisté à cette exposition, donc on va parler de cette exposition. Donc tu as organisé une exposition qui se termine aujourd'hui même avec tes étudiantes et étudiants de Master 2 en relation avec votre projet conjoint de l'Université Paris Cité et de l'Université de Toronto. L'exposition s'appelle « Early Global Female Mobilities, les femmes et la mobilité globale », si j'ai bien traduit, au début de l'ère moderne. Et qui traitait d'un sujet moins souvent présenté à la société civile. Et on va s'intéresser à ce sujet. Cette exposition, juste pour info, s'est tenue sur le site des Grands Moulins à la Bibliothèque universitaire de Paris, de l'Université Paris Cité, et qui, pour l'occasion, était accessible au grand public. Ladan, voudrais-tu nous dire un peu plus sur cette exposition?
Avec plaisir, merci beaucoup. En fait, l'exposition se présentait comme une partie projet pédagogique, disons, de ce projet avec Toronto que tu as mentionné. C'est un projet pédagogique qui engageait les étudiants de Master 2 de mon cours de Frontières du littéraire, c'était le nom du cours. Et pour cette année, donc, en fait, j'avais choisi de mettre le Shakespeare attendu, l'incontournable des cours de littérature, en regard avec des phénomènes historiques. Donc, en fait, ça a été l'occasion un peu pour nous de revoir un peu l'histoire des entre guillemets, les grands voyages, entre guillemets, les grandes découvertes, entre guillemets, les grandes explorations européennes qui ont permis toujours, entre guillemets, découverte du monde. Tout ce genre de domaines dans l'histoire qu'on a trop longtemps dans nos programmes pédagogiques abordés par le biais eurocentré. Des Européens qui partent à la découverte du monde, qui écrivent l'histoire de ce qui deviendra les grands empires européens, etc. etc. Donc moi, mon idée, et l'idée que je développais avec les étudiants, c'était de ne pas oublier la moitié de l'humanité dans cette histoire et de parler aussi un peu des femmes. Et en fait, donc, l'exposition a été l'occasion de travailler sur une douzaine de cas de personnages féminins pour avoir une idée de la palette, de la variété, de la mobilité au féminin à cette période, avec, ma foi, une couverture aussi qui permettait de voir un peu toutes les couches de la société, depuis les voyages des princesses qu'on envoyait dans des territoires lointains, effectuer un mariage diplomatique avec tel ou tel grand prince, mais aussi des femmes d'agents commerciaux, des femmes de diplomates, mais encore des captives contre rançon, des indigènes qu'on rapportait à titre de curiosité, des réfugiés des guerres de religion, des personnages réduits en esclavage, etc. Donc, en fait, une histoire globale beaucoup plus inclusive que simplement se contenter des héroïnes shakespeariennes voyageuses qu'on nous infligeait dans nos programmes scolaires. Enfin, j'ai rien contre les héroïnes shakespeariennes, hein, mais il en faut aussi. Mais enfin, elles ne sont pas sorties ex nihilo, elles venaient de quelque part. Et c'est un peu ce contexte de la période qu'on a voulu restituer.
C'est très, très intéressant. Moi, j'ai retenu frontières du littéraire et le regard eurocentré et comment vous sortez des frontières européennes. Est-ce que, avant qu'on parle du contenu, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu des différentes étapes techniques, c'est-à-dire la mise en place, l'idée de départ, la conceptualisation, comment tu as organisé ça? Parce que apparemment c'était un grand projet, si j'ai bien compris. C'était un grand projet entre l'Université Paris Cité et l'Université de Toronto. Donc, comment tu as formé des équipes, etc.
Merci. Donc, en fait, effectivement, ce projet avec l'Université de Toronto est un partenariat privilégié d'établissement qui nous permet d'élargir un peu nos champs de compétences en voyant, alors moi, je suis spécialiste de la période, du début de la période moderne. Le collègue de Toronto qui travaillait avec moi est plutôt médiéviste et les équipes autour de nous ont permis d'intégrer, d'aller un tout petit peu dans d'autres aires culturelles, sur d'autres langues, sur d'autres héritages. Il y a notamment une collègue italienne de l'Université de Toronto qui s'est joint au projet. Il y a mes doctorants, mes jeunes docteurs qui se sont joints à nous. Et du coup, ça a permis de faire entrer en jeu des compétences diverses. Avec nos étudiants Erasmus du master, ça nous permettait aussi d'avoir des variétés linguistiques. J'avais la grande chance d'avoir dans mon cours des étudiants turcs, italiens aussi, indiens, un polonais. Donc voilà, ça nous permettait d'aller chercher ces visages de l'histoire globale de la mobilité au féminin dans différentes ressources culturelles. Pour info, moi-même, je suis iranienne d'origine, donc il y a aussi, et je m'en réjouis, des personnages qu'on a pu ajouter au projet en venant des héritages du monde persanophone. Donc, pour le dire rapidement, la Perse safavide, l'Asie centrale, l'Inde mongole, qui rentraient ainsi dans le projet. Donc, voilà, l'idée de départ était de tirer profit de ces différentes richesses. Le projet financier qu'on avait eu avec Toronto portait sur un certain nombre de livrables, dont cette exposition et l'exposition qui aura lieu en retour à Toronto au semestre prochain. Une base de données des voyageuses qu'on a commencé à alimenter avec ces premiers exemples et diverses activités de publication. Donc voilà, l'idée de départ était d'avoir une sorte de tête de pont avec ces cas, cette douzaine de cas qu'on a exposés, qui nous permettent de couvrir une palette géographique quand même assez large, depuis les Inuits et les Virginiens, jusqu'à l'Afrique du Nord avec une captive de corsaires méditerranéens. On a des personnages de communautés minoritaires en Orient, une femme issue de la communauté arménienne en Inde mongole, une Vénitienne qui est allée au bout du monde en Chine. Voilà, tout un tas de... J'oubliais la captive tatare qui a été ramenée via la Moscovie par les marchands anglais pour être offerte à la reine Elisabeth Ier, etc., etc. Donc, en fait, c'est un peu la diversité que ce projet nous a permis de couvrir avec cette activité pour nos étudiants, que ça a mobilisé, que ça a intéressé, que ça a obligé à aller consulter des archives pour préparer, donc, du coup, des documents qui sont accessibles au grand public, puisque nos documents se présentent sous forme de posters, tous sur le même modèle. On a une image quand on a le portrait de la voyageuse, et ben c'est le portrait de la voyageuse. Sinon, c'est quelque chose qui évoque la voyageuse. J'aime pas trop dire voyageuse, parce qu'en fait, voyageuse, on a l'impression que le personnage a voyagé pour le plaisir et de son plein gré, ce qui n'était pas toujours le cas. Mais bon, disons le personnage féminin qui fait l'objet du voyage, on va le dire comme ça. Donc, il y a une image et il y a trois parties sur chaque poster pour chacune des voyageuses. Une première partie qui indique qui était le personnage, une deuxième partie qui décrit le voyage et une troisième partie qui explique ce qui est venu à la suite de ce voyage et pourquoi ce personnage est important, ce que ce personnage représente dans l'histoire des grands mouvements globaux de la fin du Moyen-Âge et du début de l'ère moderne.
C'est passionnant. J'ai retenu deux personnages, une Vénitienne qui a voyagé en Chine et le captif tartare de la reine Elisabeth, j'imagine, pendant l'ère de la reine Elisabeth.
Donc à la fin du XVIe siècle et les toutes premières années du XVIIe, la captive en question, c'est les années 1560, oui.
Oui, donc je voudrais revenir sur le contenu dit même de cette exposition. Comment vous avez lié, par exemple, l'équipe, vous avez lié vos recherches sur le début de l'ère moderne, c'est-à-dire fin du Moyen-Âge jusqu'au milieu du XVIIe, et la connexion avec les femmes voyageuses et les femmes qui voyagent.
La mobilité au féminin. On a plutôt appelé ça la mobilité au féminin.
Voilà, mobilité au féminin.
Alors, comment est-ce qu'on a relié l'époque et ces personnages-là spécifiquement? Donc, en fait, comme je disais au début, on a voulu réécrire un tout petit peu l'histoire de cette période d'expansion globale par le biais du féminin. Et une des difficultés de cette réécriture, évidemment, c'est que les archives dont nous disposons sont des archives pas simplement eurocentrées, mais des archives écrites par des hommes, essentiellement. Hein. Il y a très, très peu d'écrits de femmes. C'est pour ça aussi que cette histoire est tellement, tellement masculine. Alors que quand on y pense, il y a tous ces personnages qui nous viennent sous forme de fragments, sous forme de récits indirects, sous forme de mentions dans les inventaires. Dans le cas de la Vénitienne qu'on retrouve en Chine, une pierre tombale, parfois un testament. Donc en fait, pour chacun de ces personnages, il s'est agi de regarder les archives un peu à rebours, de regarder dans les marges des archives, et d'essayer de faire parler, de tirer le fil à partir de l'endroit où on trouvait la mention et de voir les choses se mettre en place. De ce point de vue-là, la captive tatare est un cas absolument passionnant parce que tout ce qu'on a sur elle, elle s'appelle Aura Sultana, tout ce qu'on a sur elle, donc, c'est une mention dans une lettre de l'agent de la compagnie de la Moscovie qui l'a ramenée, une mention dans une lettre où il remercie son supérieur pour cette jeune fille. Sans dire, il la remercie pour quoi ? Est-ce qu'il la remercie parce que cette jeune fille lui a été offerte par son supérieur? Est-ce qu'il la remercie parce que le supérieur a permis le voyage de cette jeune fille pour venir en Angleterre? Et ce qui est passionnant, en marge de cette petite mention au bas d'une lettre, on a une écriture marginale par la personne qui a édité la lettre à la fin du XVIe siècle et qui a fait une anthologie des voyages à cette époque en reprenant cette lettre. On a une petite note marginale qui dit « Il s'agit de l'esclave tatare » qu'il a par la suite offert à la reine Elisabeth. Et c'est tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a avec l'année de cette lettre, qui est 1559. Du coup, il s'agit d'aller regarder dans les archives, et l'année 1560, on ne voit pas Aura Sultana sous son nom, mais on voit dans les archives, les inventaires des fournitures de cour, disons, de la reine Elisabeth, on voit apparaître le nom d'une tatare, qu'on appelle maintenant Hippolyta the Tartarian, Hippolyte la tatare, pour qui on a prévu des vêtements, et qui pourrait être cette femme. Et on a, toujours dans les inventaires de la garde-robe de la reine Elisabeth, pour les années qui suivent, on voit des références répétées à ce personnage, qui est maintenant mentionné comme la bien-aimée de la reine, the well-beloved. Donc une favorite de la reine. Alors si c'est Aura Sultana, mon Dieu, quel parcours! On commence esclave, et on finit, favorite de la reine. Et peut-être, et c'est là qu'on comble les vides des archives en essayant de regarder autour des archives et en reliant aux éléments littéraires, y compris à Shakespeare, on peut aller, ma foi, jusqu'à une pièce de Shakespeare comme Le songe d'une nuit d'été, qui s'ouvre sur ce personnage de la reine des Amazones, Hippolyta, la même Hippolyte, qui est elle aussi captive de guerre et qui s'apprête à épouser le duc d'Athènes pour sceller la paix entre les deux nations. Donc, tu vois, voilà, c'est de l'histoire qui est parfois on a des éléments ténus, mais les éléments sont là. Parfois, il y a des choses qui sont des faits certains, il y a des choses qui sont des possibilités, des probabilités, et on essaye de combler les trous et d'imaginer. Il y a beaucoup de « et si ». « et si ». C'est pour ça que nos posters se présentent sous ces trois formes. Donc, les éléments biographiques dont on dispose pour chaque voyageuse, les éléments du voyage, donc jusque-là je suis dans le domaine des certitudes, et dans le troisième volet, pourquoi ce personnage est important et qu'est-ce qu'il est devenu, il est peut-être devenu une reconfiguration littéraire. Et c'est ce genre de choses qu'on mentionne dans la troisième partie.
C'est vraiment très, très passionnant pour moi, en tout cas, et je pense aussi pour nos lectrices et lecteurs, parce qu'on voit bien qu'on est vraiment dans les questionnements qui nous entourent en ce moment, les questions raciales, géopolitiques et de genre qui sont impliquées. Et en 1559, on voit que c'est à peu près si j'ose dire, les mêmes préoccupations. Donc, pour moi, ce projet démontre l'importance de ces enchevêtrements dès la période en question, c'est-à-dire fin du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe, milieu du XVIIe. Quel regard portes-tu sur ce point spécifique de l'intersection de ces catégories sociales, surtout pour la période dont tu es spécialiste et pour ce projet?
Merci de la question. C'est une question tout à fait importante, bien sûr, la question de l'intersection des catégories sociales, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on a essayé de mettre à l'honneur pas simplement les princesses, les reines, les femmes de diplomates, etc., mais aussi des personnages qui nous permettent de voir l'histoire autrement. De ce point de vue-là, je voudrais par exemple parler des multiples vies du personnage de Fatima. Fatima qui vient dans nos archives sous deux noms, Fatima ou Marie-Madeleine. Ça dépend par quel bout de la Méditerranée on va la prendre, ce personnage. Mmh. Donc, il s'agit d'une jeune fille d'Alger qui est enlevée par les chevaliers de Saint-Étienne de Livourne, hein, au service des Toscans, de la duchesse de Toscane, qui donc est capturée. Ça se faisait à l'époque, hein, la piraterie, la course et la captivité, ce n'était pas uniquement d'un côté de la Méditerranée, ça se faisait des deux côtés de la Méditerranée. Et donc, on capturait des gens pour avoir du rançon. Du coup, ça faisait, pour une personne, des vies multiples. Donc, dans le cas de Fatima, on se retrouve avec une jeune fille, 10-11 ans au moment de sa captivité, qui est emmenée à Livourne, de l'autre côté de la Méditerranée. On attend la rançon. La rançon arrive. Normalement, on devrait la renvoyer chez elle. On commence à la renvoyer chez elle et on passe par la Corse, où un prélat a la très mauvaise idée. On n'a pas les circonstances, à quel point c'était sous la contrainte, à quel point c'était désiré. Mais quelqu'un l'a convertie, de gré ou de force l'a convertie. À partir de ce moment-là, elle s'appelle Marie-Madeleine et on ne peut plus la renvoyer. Les parents ont payé, ils attendent leur enfant et l'enfant ne viendra jamais. Elle passera toute sa vie en Corse et on n'a pas grand-chose sur elle à part les détails de son mariage. Elle épouse donc un Corse, elle reste là-bas et il y meurt dans les années, à la fin des années 1630 sans avoir jamais pu retourner chez elle. On ne sait pas ce qu'elle avait gardé de sa culture, mais c'est une histoire de déracinement et de réenracinement qui est au cœur de pas mal des expériences vécues de tous ces personnages au féminin qui souvent ont des vies multiples. Donc, pour certains, c'est des histoires de captivité. Pour d'autres, c'est des histoires de mariage diplomatique très loin de chez elles. Et ce sont des personnages incontournables parce que sans elles, l'histoire des hommes, souvent, n'existerait pas. Je pense en particulier à un personnage, tout le monde connaît Marco Polo. Si je dis Marco Polo, tout le monde connaît. Si je dis Cocochine, il n'y a vraiment que les grands spécialistes qui vont vous dire, ah ben oui, bien sûr, c'est cette princesse mongole qui se mariait plus à l'ouest et qui a été l'occasion pour Marco Polo de revenir de Chine. Sans Cocochine, s'il ne l'avait pas accompagné, il ne serait pas revenu en Europe. Et le Livre des Merveilles de Marco Polo, on ne l'aurait pas. Donc, ce qui m'a intéressée, voilà, c'est aussi le parcours de ce personnage extraordinaire qui, elle aussi, a navigué, a vu du pays, a vu les îles de l'océan Indien, qui a fait un grand détour par les mers du Sud. Et voilà, c'est un peu ce genre de, à la fois d'histoire parallèle, mais aussi histoire humanisée, vécue, qu'on a voulu transmettre. Avec les émotions que ça a impliqué, avec le parcours de vie individuelle que ça a impliqué. C'est un peu ça, ce qu'on a voulu restaurer.
Pour moi, ça s'inscrit aussi dans l'histoire de genre et les marges. Et quand tu parles des effacements, tu parles de...
Pire que des effacements. Parfois, ce n'est même pas des effacements. Parfois, c'est des réécritures terribles. Ah, oui. Je pense en particulier au personnage... pardon si je vous ennuie avec mes cas et mes anecdotes.
Mais c'est tout à fait normal.
Alors, je me souviens, à la première séance de cours, j'ai montré à mes étudiants deux listes de mots. Première liste de mots, je leur montrais les grands explorateurs, entre guillemets, de la Renaissance. Hein, Christophe Colomb, Magellan, Vespucci, voilà, tout le monde connaissait, pas de problème. Je montre en face une liste de noms de femmes, hein, quelques-unes des personnages dont on vient de parler, Fatima, Ora Sultana et d'autres. Personne ne connaissait, jusqu'à ce que j'arrive à Pocahontas. Ah oui, Pocahontas, on connaît Walt Disney. Oui, mais. Pocahontas, avant d'être l'héroïne de Walt Disney, est un personnage historique dont le parcours historique a très peu à voir avec la princesse de Walt Disney. Et c'est aussi, donc elle fait partie des cas qu'on a retenus pour l'exposition, avec son portrait, puisque nous avons un portrait de Pocahontas habillé pour sa présentation à la cour de Jacques Ier, habillé à l'européenne, mais avec des traits indiens qu'on a voulu très fortement marquer sur le portrait, avec évidemment un éventail de plumes dans la main, un chapeau jacobéen sur la tête, et qu'on a voulu présenter comme un exemple de colonisation réussie, avec un personnage qui nous vient, évidemment, converti, marié à un colon, avec une identité nouvelle. Elle s'appelle Rebecca Rolfe. Donc, quand je l'ai montrée au début à mes étudiants, je l'ai présentée sous le nom de Rebecca Rolfe, et personne ne connaissait. C'est quand j'ai dit Pocahontas que les gens ont tilté en passant par Walt Disney. Donc, on a voulu aussi, avec ce projet, on a voulu aussi pas simplement donner de la voix à des personnages qui n'en avaient pas, mais aussi corriger l'histoire là où on avait des visions totalement instrumentalisées et faussées.
C'est super. Corriger l'histoire, réagencer l'histoire, réparer. Évidemment, les marges qui sont soit complètement effacées ou la violence de révision de cette histoire. Donc, cette histoire-là, les universitaires et la société civile, beaucoup de personnes qui s'y intéressent, sont en train d'écrire ensemble. Donc, comment conçois-tu cette interaction de circulation entre, pour les questions de genre, pour les questions d'effacement et même de violence que tu en parlais tout à l'heure? Comment conçois-tu cette relation entre la société civile et l'université pour toi?
Je la conçois tout d'abord comme absolument nécessaire, absolument désirée, mais malheureusement pas toujours là. Et je pense que des initiatives comme celle-ci, je veux dire l'universitaire, il y a des choses que l'universitaire peut faire. L'universitaire se charge de l'éducation de la jeunesse de demain, dans mon cas, mes étudiants Erasmus qui vont repartir chez eux, qui vont repartir avec une autre vision de leur histoire s'ils ont cherché un personnage qui avait à voir avec leur héritage culturel, ou nos étudiants à nous. Donc, former la jeunesse, oui, c'est une partie de notre travail. Mais ce que je souhaite davantage, effectivement, c'est d'avoir des possibilités de dissémination plus importantes en direction de la société civile et des espaces pour faire plus participatif, pour pouvoir co-construire. Hein, l'histoire globale a besoin d'être inclusif et tirerait profit d'être inclusif. Justement, tout à l'heure, je parlais de l'exemple des talents linguistiques, des connaissances linguistiques des uns et des autres pour explorer des sources. Donc ça, c'est une chose. Mais après, pour ce qui est de l'œuvre d'éducation, l'éducation ne se fait pas simplement entre les quatre murs de nos universités. Et ce que je voudrais, donc on a parmi les livrables de ce projet, on a prévu des choses qui permettent d'accrocher davantage le grand public, un blog, un site web qui ira avec notre base de données. Et on voudrait, j'aimerais, à plus long terme, pouvoir associer ça à des expositions qui soient hors les murs de l'université, même si cette exposition-ci était ouverte au public extérieur. Ça reste quand même assez confidentiel. Hein. Les espaces où on peut faire la publicité de ce type de manifestation, ça reste assez confidentiel. Donc, à plus long terme, j'aimerais utiliser aussi bien des instruments comme l'université ouverte ou les interactions avec l'enseignement secondaire dans les écoles, dans les lycées, comme des possibilités, de même que la possibilité de faire des expositions sur dans des lieux comme les musées de la ville de Paris, ou le musée de l'immigration, l'Institut du monde arabe, où actuellement, justement, on a un très beau projet de recherche que je recommande. Hein. Ce n'est pas un projet de recherche à moi, donc je ne suis pas en train de vous vendre mon propre projet de recherche. Il y a une exposition sur l'esclavage méditerranéen, donc des deux côtés de la Méditerranée, actuellement à l'Institut du monde arabe. Donc je pense que voilà, ce type d'espace où on peut interagir avec la société civile c'est vraiment précieux et des choses à poursuivre, de même que toutes les possibilités de vulgarisation Là, pour le coup, je vais me faire un peu de publicité personnelle, si on me le permet. En avril prochain, on a comme une fois tous les deux ans, on a un festival Shakespeare qu'on organise à la ville de Vincennes. Et cette année, on a pris comme sujet Shakespeare Voyageur du Globe, qui sera l'occasion, effectivement, d'ouvrir un tout petit peu des choses autour du Shakespeare qu'on connaît, pas simplement donc lui, mais d'avoir une exposition au cœur de la ville avec des grandes affiches où on va expliquer la géographie telle que c'était compris par les contemporains de Shakespeare et ses interactions justement avec le monde qui permettront de aussi, j'espère, de regarder le monde par d'autres perspectives que simplement une perspective anglo-centrée ou eurocentrée.
Super. Merci, Ladan. Est-ce qu'on peut voir cette exposition quelque part sur un site? Est-ce que tu veux nous donner un nom de site?
Pour l'exposition de Vincennes, tu veux dire? Ou l'exposition qu'on organise au Grand Moulin? Alors,
vous allez le mettre sur votre site? Parce que vous avez un site, je crois.
Absolument. Donc, oui. on a un site du projet. Peut-être qu'on pourra mettre le lien dans le descriptif de, du podcast. Ça sera plus facile que de dicter des chiffres des lettres.
Oui, bien sûr.
Effectivement, on a un site du projet, un blog du projet qui se construit. Et on va mettre effectivement un compte rendu en images, avec les images, notamment les photos que les étudiants ont prises et qu'on a trouvées fort sympathiques. Et je voudrais aussi utiliser ce moment pour rendre hommage aussi, puisque c'est un travail collectif, rendre hommage au travail de nos collègues de la plateforme Géothéca de l'Université Paris-Cité qui nous ont fait une très très belle carte pour introduire l'exposition. Donc c'est une carte qui indique les points de départ de chaque voyageuse et on a une petite vignette. Quand on avait le portrait de la voyageuse, il y a la voyageuse. Quand il n'y avait pas de portrait de la voyageuse, il y a une image qui évoque ce voyage en particulier. Donc c'est une bonne introduction et une bonne manière de rendre le parcours parlant pour le spectateur qui arrive et qui embrasse la carte du monde du regard avant de commencer à regarder les cas différents des personnages. Donc merci à Géothéca pour la carte et je peux continuer avec un autre remerciement. Allez, remerciement aussi à notre merveilleuse responsable de communication Isabelle Marchand qui effectivement a mis en place le blog qui nous donne de la visibilité pour ce projet. Et enfin, je voudrais rendre hommage aussi au beau travail de nos collègues graphistes, notre collègue graphiste à la reprographie des Grands Moulins, Maud Brel, qui s'est occupée de tout le design, de tout le visuel autour des jolis posters qui sont là. Et ma foi, on a aussi peut-être des projets avec Cité du Genre, si la Cité du Genre veut nous aider, pour éventuellement faire une exposition un peu itinérante. Donc on est à l'écoute, s'il y a des possibilités d'exposer ailleurs, les affiches sont là, on est là, et on est ravis de continuer l'aventure.
Mais bien sûr, le Cité du Genre tient ce genre de projet. Merci beaucoup, Ladan.
Merci.
Je rappelle que tu es professeur en études anglophones, spécialiste de la littérature et de l'histoire du XVIe et XVIIe siècle à l'Université Paris-Cité.
Merci beaucoup, Sandeep.
Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir entendus. Bye-bye.
Pas mon genre, podcast organisé par le pôle Société Civile de la Cité du Genre. Réalisation, studio vidéo de la DSIN, Université Paris-Cité.